se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est avec vous, 32-16 pour discuter, pour débattre. Aujourd'hui, Joël Dagosséré est avec nous, elle est coach de vie. Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et Jean-Loup Bonamy est professeur de philosophie. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Lyon, du maire de Lyon, Grégory Doucet. En fait, il veut régulariser l'installation de la malbouffe. Il veut de moins en moins de fast-food. Il veut y mettre un coup d'arrêt. Est-ce qu'il a raison? On en parle avec vous au 32-16.
RMC, les grandes gueules.
Écoutez d'ailleurs ce qu'en disent quelques Lyonnais interrogés par nos confrères de BFM Lyon.
Oui, il y en a quand même pas mal, puisque là on a le McDo, là-bas on a Five Guys, même là-bas on a encore un McDo. C'est arrangeant pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens, et puis c'est bon et c'est rapide.
Petit fast-food de personnes indépendantes, ça peut être quand même pas mal d'en rajouter, donc pourquoi pas, tout dépend de quel fast-food.
Ça continue dans le même sens, bientôt il n'y aura plus de bouchons, il n'y aura plus rien, parce que bon, les gros groupes vont tout prendre. Hein.
Voilà, Lyonnais interrogé par RMC, pardon. Donc, en fait, l'affaire a démarré parce qu'il y a un KFC qui venait s'installer dans le centre de Lyon.
C'est ce qu'on appelle la loi du commerce, effectivement. Il y a une demande, donc il y a une offre aussi, où il y a l'offre crée la demande, ou la demande crée l'offre. En tout cas, il y a surtout, et ça c'est pas seulement Lyon qui est concerné, dans tous les centres-villes, il y a une hausse très forte des loyers, ce qui fait que le petit commerçant local ne peut plus suivre, donc il s'en va, et ce sont les grandes chaînes commerciales qui prennent le relais. Alors c'est pas seulement KFC, mais ça va être le magasin Zara, ce qui fait que d'ailleurs, maintenant, quand tu te balades en Europe, dans tous les centres-villes, t'as exactement les mêmes choses, t'as des chaînes commerciales, donc t'as pas tellement l'impression d'être dépaysé, parce que tu retrouves exactement ce que tu peux avoir à Lyon, à Paris, quand tu vas à Lisbonne, à Rome, voilà. Donc c'est un phénomène plus large. Là, le problème, c'est que le maire de Lyon, qui est assez idéologue, en fait un combat personnel contre la malbouffe, entre guillemets, en disant qu'il veut sauver la gastronomie locale. Donc est-ce qu'on y croit?
Non mais vous trompez pas quoi. Quand Grégory Doucet se bat contre le McDo avec l'étendard de la malbouffe, c'est pas pour le bouchon lyonnais, la quenelle, le tablier de sapeur et la cervelle de canu, hein. Non, c'est pour faire du tofu, du steak végan et puis des bols d'asperges quoi, hein. C'est ça qui aura la place, hein.
C'est
moi.
Bon les asperges.
Non mais il y a pas de problème avec ça, mais ne vous trompez pas sur là où il veut aller quoi, hein. Là où il veut aller avec l'étendard de la malbouffe, ça va bien, ça plaît à tout le monde. C'est d'aller dans un monde de véganisme, dans un monde végétarien, alors qu'il y en ait dans une grande ville comme Lyon, ça me pose pas de problème. Mais à un moment donné, tu prends pas l'étendard.
C'est quoi la cervelle de canu?
La cervelle de canu, c'est un fromage blanc à la crème qui est moulé comme une quenelle, dans laquelle on a rajouté de l'ail et de l'échalote. De l'échalote et de la ciboulette, pardon.
C'est bon ça?
Oui.
Jean-Loup?
Eh bien,
d'accord avec le maire de Lyon.
Je suis totalement d'accord avec le maire de Lyon, qui à mon avis
qui bouffe du tofu et des graines.
Qui va à mon avis dans le bon sens pour au moins deux raisons. Première raison, il y a des problèmes aujourd'hui en Occident majeurs de santé publique liés à l'alimentation et notamment à la malbouffe. Regarde par exemple, là on parle quand même d'entreprises, beaucoup d'entre elles sont d'origine américaine, le fast-food c'est un modèle américain, regarde le taux d'obésité aux États-Unis. On a reçu le ministre de l'économie, sur mon salaire, je touche moins que le chiffre brut, tout simplement parce que je paye des cotisations sociales. Donc, la santé, c'est une affaire collective dans un système comme le nôtre. Donc, à partir de là, je ne peux qu'être content qu'on lutte contre la prolifération exubérante et excessive d'entreprises, que je n'ose même pas qualifier de restaurants, qui privilégient la malbouffe et qui contribuent à diffuser la malbouffe. Et le deuxième point, c'est la défense de notre identité, de notre identité culturelle. Écoute, on en parle souvent ici, la menace qui pèse sur l'identité française, c'est pas que lié à l'immigration, tu vois, faut pas prendre des boucs émissaires, il y a aussi plein de choses qui n'ont aucun rapport avec l'immigration, qui détruisent nos paysages. Regarde, c'est pas du tout notre culture, c'est pas du tout notre paysage, qui standardisent tout. Tu l'as dit toi-même, tous les centres-villes des grandes métropoles ressemblent, qui détruisent notre identité à la fois visuelle, psychologique, culturelle, alimentaire. Surtout à Lyon, t'as la capitale de la gastronomie française et... voilà, donc avec la tradition du bouchon, etc., etc., les bistrots lyonnais. Et donc, t'es véritablement sur une catastrophe. D'autant plus qu'il dit pas du tout qu'il veut interdire les fast-foods ou qu'il n'y ait plus de fast-food en France. Il veut juste ralentir l'expansion. On est le pays européen où il y a le plus de fast-food. Il y en a beaucoup moins en Italie.
On est le pays dans le monde après les États-Unis. Il y a le plus de McDo par rapport au nombre
d'habitants. Voilà, où il y a le plus de McDo par habitant. Donc, il y en a peut-être assez comme ça. C'est pas la peine d'en rajouter plus. Il y a peut-être déjà un problème.
Là, c'est KFC. T'aimes bien, Joël, KFC?
Non, mais je sais pas, je pourrais rien enlever à ce que vient de dire Jean-Loup. J'ai même envie de lui faire un bisou sur le front, tellement, tellement il m'a enlevé.
Partir à l'étranger, elle va te faire un bisou sur le front.
Tellement il m'a enlevé, exactement.
D'Hidalgo sur le front, ça reste très raisonnable.
Mais j'aime ça, c'est l'Atlantique pour aller dans la bonne.
Non, mais à la Barthès, tu sais, à la Barthès.
Oui, il faut que je regarde un peu. Et précision, contrairement à ce que m'a dit une fois un élève qui le croyait, le personnage qui est au-dessus du KFC, c'est le colonel américain qui a fondé la marque de KFC, ce n'est pas Victor Hugo. Il pensait à l'envers plutôt que Victor Hugo était le fondateur du KFC. C'est pour ça que Victor Hugo avait ça. Et ce n'est pas une plaisanterie.
Effectivement, il y a un problème.
Non, et il a fondé KFC Joël, alors qu'il était déjà presque à la retraite.
Joël, elle va pas dans ses chaînes.
Même moi, j'aime beaucoup KFC, etc. Mais si. Mais moi, je suis quelqu'un du McDo, enfin des fast-food et tout. Je me retiens pour pas prendre 20 kilos, mais sinon j'aime bien.
Et pourquoi t'es d'accord avec Jean-Louis?
Mais je suis complètement d'accord, alors que pourtant je suis pas du tout d'accord avec
Jean-Louis. Mais t'es complice de ça et...
Mais non, parce que je tiens à préserver le paysage. Il faut savoir que les fast-food, c'est pas le même paysage qu'un bistrot avec une terrasse, etc.
C'est vrai.
Et je trouve que de préserver ce qui fait quelque part l'image de la France, et ben c'est très important. C'est très important. La deuxième chose, il l'a dit Jean-Louis, c'est l'obésité. On se plaint justement qu'on a de plus en plus d'obésité. Donc pourquoi encourager une ouverture aussi facile de nourriture qui favorise cette obésité? Ben non, mais moi je crois que c'est le rôle d'un politique de faire de l'aménagement de territoire, de placer les choses de sorte à ce que il y a de la diversité, une offre. Alors s'il y a que des fast-food, il y a plus de diversité. Donc il y a de la diversité et qu'il y ait du choix. Donc il est totalement dans son rôle, Monsieur Doucet, et je l'encourage à le faire. Pourtant, je suis une consommatrice.
Il va mettre en place des assises.
Très naïf sur le fait que vous croyez son discours tel qu'il le met.
Oui, il y a une bataille idéologique derrière.
Sans rien analyser de ce qu'est Monsieur.
Moi, je suis d'accord.
Ce qu'il veut faire, quoi.
Si c'est au nom de la santé publique.
Non, mais.
Et au nom, effectivement.
Trop facile, ça.
De la sauvegarde de centre-ville
lyonnais.
Voilà, du bouchon lyonnais, que Lyon doit rester Lyon, doit ressembler à Lyon. D'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours derrière cette bataille idéologique qui faisait que José Bové avait démonté le McDo. Vous vous souvenez à Millau, et on est toujours dans cette idée, comme ça vient des États-Unis, et en fait c'est pour de mauvaises raisons, c'est la bataille contre le libéralisme, contre la loi du commerce.
On va en parler avec...
Tant mieux si ça limite la
On va en parler avec Didier qui est artisan boucher.
Ça fait de l'emploi quand même, pardon.
Qui nous appelle de Gironde.
C'est les Français qui travaillent dans ces restos.
Bonjour.
Bienvenue mon cher Didier. Qu'est-ce que vous en dites? Le maire de Lyon a-t-il raison?
Bah, moi je pense que oui, parce que bon, je suis pas un écolo, enfin voilà, chacun ses idées, mais là je pense qu'il a raison de faire ce qu'il veut faire, parce que on a tellement de fast-food, moi je vois pas loin de ma boutique, on en est envahi. Donc aujourd'hui on veut que les gens mangent correctement, proprement, mais c'est pas possible avec ce genre de commerce. Donc il a raison, oui, de vouloir limiter, au moins limiter. On ne les arrêtera pas, mais limiter, parce qu'on en est envahi. Je crois que là.
Vous avez des enfants, Didier ?
Oui, tout à fait.
Alors comment ça se passe avec vos enfants, justement ? Alors, vous les bagarrez ou pas ?
Alors, je me suis bagarré, maintenant ce sont des adultes, mais je me suis bagarré avec eux, mais bon, c'était peine perdue, parce que tout, dans leur entourage, tout le monde allait chez McDo, donc moi j'y suis allé par un autre biais, je leur ai dit que quand ils allaient chez McDo, parce qu'ils débarrassaient pas à la maison, bien sûr, la table, mais au McDo, il le faisait. Donc je me suis battu un petit peu là-dessus. Ça a eu, j'ai marqué quelques points, et aujourd'hui ils s'aperçoivent de même que ben, le prix et puis ce que ça représente comme nourriture, mauvaise nourriture, parce que
chez McDo on vend du packaging d'abord.
Ah, oui, mais clairement, c'est du packaging. Après, bon, ils font croire que c'est pas cher, alors que ça coûte la peau des fesses. Et puis après, le reste fait tout seul. Ils travaillent le produit, comme disait Madame Akouséberi, ça lui plaît, ce genre de produit, parce que le produit est travaillé pour plaire, c'est tout. Après, bon, non, c'est pas bon. Là, il y a pas.
Après, pardon, mais moi, il faut être pour la liberté. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y aller tous les jours, on n'est pas obligé d'y aller. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ouvre un commerce qu'on est obligé de s'y ruer. Et puis, ça emploie beaucoup de monde. Je rappelle que le premier resto de France, c'est McDonald's, hein, le premier employeur. Donc, il faut penser aussi à tous ces gens qui travaillent, c'est franchisé. C'est une activité économique.
Il ne s'agit pas d'interdire. Je pense qu'il faut réguler. C'est-à-dire qu'il en faut. Ben, moi, je pourrais pas
dans les centres-villes, en périphérie.
Si, il en faut trop. Quelques-uns, mais pas trop. Je pense qu'il faut réguler. Il faut une diversité de choix. Et en plus, pour moi, ça touche aussi à l'art de vivre à la française. Parce que consommer du fast-food et s'asseoir en resto classique, etc., c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de vivre. Et si on ne fait que du fast-food, du coup, on va détruire un peu ce qui fait nous, c'est-à-dire prendre le temps de manger. Quand tu regardes bien les chiffres, on prend de moins en moins de temps pour manger. Donc, il faut favoriser le retour à table, le fait de prendre du temps à midi, etc. Ça fait pas de mal. Et si on installe que du fast-food, on aura moins ça.
Non, mais tu vois, m'interroge, c'est quelle va être la position du maire de Lyon quant à l'implantation des kebabs. Il y en a à peu près partout.
Mais c'est du fast-food, ça. Mais c'est pareil.
Les sandwichs,
dans son idéologie, le kebab,
c'est pas énorme. On en fait quoi? Enfin, s'attaquer à McDo, c'est facile, quoi.
Mais oui, moi, parce que dans la tête de ces gens-là, c'est
et c'est quand même
américain.
Moi, le paysan français, qui est obligé de défendre McDo aujourd'hui.
Mais McDo, quand même, le monde travaille aussi des producteurs français. La viande. Alors, vient d'où la viande?
Je vais t'annoncer quelque chose. McDo, depuis maintenant plusieurs mois, a supprimé le petit charolais, qui était un truc qu'on avait signé en 2004 au salon, et c'est quelque chose qui s'en va, alors d'abord en sifflet, et dans les approvisionnements de viande de McDo, il y a de moins en moins de viande française. Parce que le prix, tout simplement, et aujourd'hui, on est pratiquement rendu à 70-30.
Là, il faut se battre pour ça.
Concurrence étrangère dont on parlait avec le ministre.
Oui, mais il faut se battre pour ça.
Et simplement, j'ai une question, Olivier.
Oui.
Truchosan, comme on dirait au Japon. Est-ce que tu es pour salarier les choufs et les guetteurs dans le quartier nord de Marseille, puisque tu nous dis que ça crée de l'emploi? Mais c'est pas parce qu'une chose crée de l'emploi
Légalisation de la drogue, effectivement, permettrait de remplir les caisses de l'État.
Oui, et de créer des emplois. On peut légaliser l'héroïne, etc.
On a bien l'alcool est légal, il y a des bars.
Non, mais c'est légal.
Il y a un coin
de rue. C'est un employeur.
Pour te répondre sur justement l'aspect libéral. Moi aussi, je suis pour la liberté, comme l'a dit Joël, je suis pour la diversité, je suis pour qu'il y ait des fast-food, mais, et que les gens puissent y aller s'ils le souhaitent, mais qu'il n'y en ait pas trop. Or là, nous en avons déjà énormément, et justement, ça tue la liberté, ça tue la diversité, puisque ça tue les autres commerces.
Mais ça ne prend pas en compte un changement aujourd'hui, qui est le changement du mode de vie.
Oui, mais qui ne va pas dans le bon sens.
La vie ne ressemble pas à celle de Jean-Loup Bonamy, forcément.
C'est là, tu vois, où ça évolue. Moi, mes enfants de 20 ans vont plutôt pas au McDo, quoi.
Parce qu'ils grandent.
De restauration rapide, là, le machin, c'est Subway. Plutôt des tacos, des machins, des trucs, mais c'est pas McDo.
Et puis il y a autre chose aussi.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est toujours un truc qui pousse l'autre, quoi. Et les centres-villes, c'est aussi ça le problème. C'est que si t'as déjà un McDo, un KFC, un je sais pas quoi, t'as des nouveaux modes de restauration rapide qui vont se créer là-dessus, des nouvelles chaînes qui vont se créer, et ça va en pousser un autre. Et peut-être qu'il faut réguler.
Pardon, mais les burgers, il y en a dans tous les restaurants maintenant. Même chez les étoilés,
il y a un burger.
Donc,
c'est là où.
Elle est là.
Mais ben, je remarque que chacun a son fast-food. Il y a McDo, Bardella, Starbucks, Macron. Enfin, Starbucks pour les électeurs macronistes, métropole insérée dans la mondialisation, et le McDo de la zone commerciale dans la France périphérique pour l'électeur de Bardella. Oui, chacun a son fast-food aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi un peu un problème. Et d'ailleurs, quand tu vois justement
ça m'arrive d'aller à Big Fernand, hein,
qui doivent les Starbucks.
Oh, c'est bobo ça, Big Fernand. Hein.
Les Starbucks qui doivent pulluler les électeurs de Macron. Quand tu entre dans un Starbucks, tu ne sais plus où tu es, puisque tous ces Starbucks, sont identiques et interchangeables et déconnectés de l'ambiance, du paysage, de l'architecture.
Mon cher Jean-Loup, 50 000 euros à gagner vendredi. Vous avez entendu l'alerte coffre, c'est le moment de m'envoyer. Vous avez 5 minutes. Hein. M'envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS 732-16. À vous de jouer. À vous de gagner.
Bruno Le Maire a promis de jouer. Hein.
Si, et c'est exonéré d'impôts. Hein. Le ministre vous l'a assuré. Donc, si vous êtes tiré au sort vendredi, vous gagnez d'ores et déjà 2500 euros. Si vous me dites on ouvre le coffre, vous laissez de côté les 2500 euros. Et dans le coffre, vous pouvez avoir soit un séjour d'une semaine, vacances pour 6 personnes dans l'un des campings Tikayan, soit la somme de 50 000 euros. Quoi qu'il en soit, ça vaut la peine de tenter votre chance. Donc vous m'envoyez coffre par SMS 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner les amis. On revient à notre discussion à propos des fast-food que le maire de Lyon veut limiter dans leur extension. Et puis il y a une chose après, c'est le prix. Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé qualité. Il y a le prix. Quand tu vas dans un fast-food, tu as une espèce de petit menu où tu t'en tires pas pour plus de 10 ou 12 euros maximum. Et quand c'est McDo, c'est même un petit peu moins cher.
Le bouchon lyonnais, c'est pas ce prix-là.
Voilà. Quand tu vas dans un bistrot, t'as juste, c'est pas ce prix-là.
Ah, écoute, à Lyon, tu vas avoir le plat du jour à 15.
Le plat du jour, simplement.
Le McDo, c'est plus si accessible que ça. Il y a encore des petits menus, les petits menus pour enfants.
Tu prends les menus pour enfants, toi, Joël.
Bah, écoute, si t'as pas l'argent, tu peux jouer ça. Ou alors, des fois, quand j'ai pas envie de trop manger, je prends une boîte de 4. Nuggets, donc c'est pas très cher. Mais sinon, le menu.
En bout d'un quart d'heure. Hein.
Non, mais le best-of, excuse-moi, je fais de la vue, mais il est quand même on touche les 11, voire des fois 13 euros.
Ça,
hein.
Ça a augmenté.
Donc, des fois, je fais une bonne brasserie pour presque le même prix, hein, avec un plat dessert. Donc, c'est plus si accessible que ça.
T'as la boisson, t'as le sandwich.
Oui, t'as du packaging, Alain. Oui. Chez McDo, t'achètes du packaging.
Peu importe.
Pardon, mais moi, je trouve. Excusez-moi, mais. Toujours dans l'interdiction, mais plutôt réfléchissons à trouver des alternatives. Essayons de trouver des choses qui vont plaire aux jeunes et qui ne soient pas KFC, McDo. Enfin, c'est ça le commerce, c'est ça l'innovation. C'est pas interdire, ça n'a jamais marché l'interdiction, hein, parce que vous pouvez pas mettre.
Alors,
il y a des mouvements.
En milieu rural,
donné, effectivement, les gens.
C'est ce que veut faire Grégory Doucet.
On a connu ça en milieu rural.
Tu as vu ce qu'il veut faire, Grégory Doucet,
qui va monter la restauration.
Justement, parce qu'il veut limiter, mais il veut le faire de concert. C'est-à-dire, il veut organiser les assises du commerce et de l'artisanat pour trouver avec les élus, les professionnels et les forces vives lyonnaises de nouvelles règles et de nouvelles chaînes de restauration qui puissent s'implanter dans Lyon.
Mais tu vois, ça, on l'a connu en milieu rural. Au moment de José Bové, là, le maire qui montait sa fronde et jamais chez moi il y aura un McDo ou alors même les grandes surfaces. Le maire de l'autre côté de la route sur la commune d'à côté, il disait, viendez, moi je veux bien des taxes à l'apprentissage et tout ça, et vous paierez vos impôts chez moi, et puis voilà, le McDo il changeait de côté de rue, et puis il se montait quand même. Moi je trouve que ce combat de réguler, il est d'arrière-garde.
Réclamation que j'aurais à faire sur ça, c'est que ouvrir un petit fast-food, c'est peut-être plus simple que d'aller ouvrir un resto avec cuisine, etc. Ça revient peut-être moins cher.
C'est franchisé, oui.
Et du coup, ça te permet, ça te permet quand t'as envie de te lancer, de le faire beaucoup plus facilement. Donc, comme moi, j'aime encourager la création d'entreprise. Donc, il y a ce
c'est
côté-là.
Pour la liberté aussi, c'est important, des valeurs.
Mais s'il crée une assise et on peut trouver quelque chose qui soit hybride, pas totalement fast-food, et qui facilite la création d'une entreprise et l'insertion d'une nouvelle chaîne, pourquoi pas, mais la régulation, moi je suis plutôt pour sur ce point-là.
Et je suis d'accord avec toi sur la régulation des grandes chaînes, mais en même temps, je l'ai déjà dit, je le redis, tu vas te promener à Lyon, il y a 5 kebabs à chaque coin de rue, quoi. Oui. Et des sandwicheries, et des trucs, pareil, et des machins, et là-dedans tu rajoutes du McDo et du
kebab. ça rentre dans face.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que le maire de Lyon va s'en prendre au kebab?
Moi, j'ai pas compris que dans l'info là, il s'en prenait aussi fort au kebab qu'aux grandes chaînes de restauration rapide. Hein, j'en suis pas sûr.
Bah, c'est la même chose.
C'est des choix électoraux.
Je pense. Est-ce que on a mis une petite interrogation, une petite consultation, les amis? Faut-il bannir des centres-villes les fast-food? Oui ou non? C'est ce qui se fait à Lyon, puis on verra quel est. Ah, regardez,
c'est très serré.
C'est très partagé. Non, oui, 51,7, non, 48,3.
Ouais, j'aime bien. Olivier, quand il gagne le sondage, et même à 51, il dit on a gagné. Par contre, quand il le perd, il dit oh, c'est serré. Hein.
Dans un instant, avec vous,
PSG,
avec vous, 32-16, on va reparler de la menace terroriste. Mais on sera avec Jérôme Poirot, c'est l'ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. Donc il connaît bien toutes ces mouvances djihadistes, toutes ces mouvances islamistes. Est-ce qu'on peut coopérer, par exemple, avec les services de Vladimir
Macron,
Poutine?
Il vient de le dire. On va coopérer avec Moscou. En ce moment, pourtant, on n'est pas. Voilà,
est-ce qu'on aura Vladimir et en même temps de la guerre nucléaire à la coopération
qui nous aura rabiboché voilà. Avec
Est-ce que
grâce à Daesh, Emmanuel Macron va
ce
repasser
qui est assez
les coups
curieux, puisque Vladimir Poutine, pour l'instant, ne fait aucunement dans ses déclarations publiques. Référence à l'État islamique.
Et il n'a pas demandé de coopérer avec Macron non plus.
Il préfère dire que tout ce beau monde sûrement était payé par l'Ukraine, voulait s'échapper par l'Ukraine et autres. Bon allez, on en parle avec vous au 32-16.
Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout. RMC,
9h midi,
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, 3 GG avec vous depuis 9h ce matin. Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et nous sommes avec Joël Dagosséry, coach de vie. On va continuer, ou plutôt reprendre notre discussion sur la menace terroriste après ce qui s'est passé à Moscou.
RMC, l'invité des Grandes Gueules.
Oui, parce qu'on a rehaussé le plan Vigipirate dans le pays à son niveau le plus élevé, urgence attentat. Le président de la République est parti pour la Guyane et évidemment le chef de l'État a dit un mot sur cette menace terroriste. On écoute Emmanuel Macron.
La Russie a été touchée par une attaque terroriste islamiste que nous avons connue ces dernières années. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate.
Alors, on va justement parler de ce renseignement, comment est-ce qu'on peut se prémunir contre la menace terroriste. Avec Jérôme Poirot, il est consultant terroriste pour BFM TV. Et Jérôme, vous êtes ancien adjoint à la Coordination Nationale du Renseignement.
Donc Emmanuel Macron nous dit que la branche du groupe État islamique qui a attaqué donc, et fait 137 morts selon le dernier bilan en Russie, aurait eu l'intention de faire des attentats chez nous, des attentats déjoués.
Ah oui, si le président de la République le dit, il n'y a aucun doute sur le sujet. Il y avait déjà eu un certain nombre de choses qui avaient été dites, des projets visant la France, visant nos voisins. Vous savez, ce n'est pas très difficile, finalement, de savoir quel est l'état de la menace. Il se trouve qu'on a des administrations qui sont faites pour ça, c'est les services de renseignement, ça fait partie de leur métier, et ils font ça en étroite coopération avec beaucoup d'autres services de renseignement dans le monde. Donc, ils savent en permanence quel est le niveau de la menace, s'il y a des projets qui se préparent, avec qui, comment, ce qui fait que beaucoup de projets d'attentats sont déjoués, mais quelques-uns passent à travers les mailles du filet.
Macron voudrait coopérer avec Moscou, hein, il appelle à une coopération. Oui. En ce moment, ça va être compliqué, si ?
Non.
Quand même, les services de renseignement coopèrent, s'il y a ce conflit ukrainien.
Ce qui guide l'activité des services de renseignement, c'est les intérêts de leur pays. Et donc, vous coopérez avec parfois des pays et des services de renseignement de pays sur des coopérations tout à fait improbables parfois. Et ça dépend des thématiques. Là où tout le monde a le plus intérêt à coopérer, c'est dans le domaine de la lutte antiterrorisme. Donc il y a toutes sortes de coopérations parfois bizarres.
Parce qu'on a des ennemis en commun, en fait.
Parce qu'on a des ennemis en commun et que la menace est très très sérieuse. Vous savez, même au moment où, je crois que c'est François Hollande, a fait fermer l'ambassade de France en Syrie, ça a râlé du côté des services de renseignement français. Parce que vous pouvez vider l'ambassade de tout son personnel, de tous ses diplomates, mais vous gardez l'ambassade ouverte, c'est-à-dire que l'enceinte diplomatique existe, et donc ça permet à des Français, donc des gens des services de renseignement, de venir tranquillement, si j'ose dire, en Syrie, puisqu'ils savent où aller, et ça facilitait les contacts avec les homologues syriens, même si par ailleurs on était en guerre quasiment contre la Syrie. Donc les services de renseignement, ils sont habitués à ça. Vous pouvez avoir deux services de renseignement, de, par exemple la CIA et la DGSE, qui le matin se voient dans une réunion pour parler de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les armes de destruction massive, et l'après-midi, d'autres gens de la CIA qui essaient de voler nos secrets industriels, nos secrets scientifiques, et la DGSI qui essaye de les empêcher de le faire. Donc c'est ça la vie des services de renseignement. Ce sont les intérêts des pays. Mais
c'est quoi ce groupe islamiste alors au Khorasan là ? Alors d'où vient-il ? De quelle scission est-il né ? Que cherche-t-il ? Parce qu'on pensait avoir bousillé l'État islamique. Quoi,
donc. Ah ben on a mal pensé, parce qu'en fait la menace djihadiste, elle est très prégnante en Afghanistan et en Occident et notamment en France. Depuis on l'a vécu depuis 1995. À l'époque, c'était le groupe islamique armé, le GIA, c'était les terroristes algériens qui ont commis toutes sortes d'attentats extrêmement violents en France. Et puis, il a été neutralisé, notamment par les Algériens. Après, on a eu Al-Qaïda, avec les attentats du 11 septembre 2001, les attentats à Madrid, à Moscou. On a eu en 2015 toute une série d'attentats. Bon, donc, c'est toujours la même mouvance. C'est le djihadisme international qui veut terroriser l'Occident, qui veut convertir tous ceux qui ne sont pas musulmans et ceux qui ne veulent pas se convertir, les égorger. Alors, par moments, ça s'appelle Al-Qaïda, par d'autres moments, ça s'appelle l'État islamique. Et l'État islamique du Khorasan, il est né fin 2014, début 2015. C'est une scission des talibans pakistanais et d'une frange d'Al-Qaïda. Donc, c'est une mouvance de plus. Il ne faut pas s'attacher au nom de ces organisations. GIA, Al-Qaïda, État islamique, c'est la même chose.
Ce qui me surprend, alors je ne sais pas, il faut faire attention à ces images venues de Russie, mais ceux qui ont été pris, qui ont été arrêtés, hein, ceux qui ont participé à cet attentat, expliquent qu'ils ont été payés. Alors moi j'avais l'impression que jusqu'à présent, les islamistes, ils faisaient ça pour la cause divine, et c'était d'ailleurs prêts à mourir pour le Dieu qu'ils servent. Et là, finalement, ce sont plutôt des mercenaires.
Là, il y a quatre Gugus qui ont été arrêtés près de Briansk, c'est-à-dire tout près, enfin à peu près 400 kilomètres au sud-ouest de Moscou, près de la frontière ukrainienne. Ils ont passé de très sales quarts d'heure. Hein. Oui. Ils ont été torturés. On ne sait pas d'ailleurs si ce sont les quatre mêmes que ceux que l'on voit dans une vidéo qui a été diffusée par l'agence de presse de l'État islamique au Khorasan. Il est probable que ça ne soit pas les mêmes. L'un a un gros pansement sur le visage, le côté du visage. Il a eu une oreille qui était coupée au couteau. D'autres ont subi des tortures à l'électricité.
Le sac en plastique autour du cou. Alors je sais pas, il a dû être utilisé pour les étouffer, pour.
Ils ont subi tous les sévices qu'on peut imaginer. Donc ils racontent ce qu'on leur demande de raconter. Vous voyez, il y a un élément qui est quand même extrêmement troublant. Ils se sont fait prendre comme des agneaux.
Oui.
Bon. Alors l'un a avoué. Ils auraient jeté leurs armes quelques kilomètres avant d'être pris. Voilà les grands professionnels. Donc,
vous dites Gugus.
Ah bah oui, tout ce qu'ils peuvent raconter, il faut porter évidemment accorder aucun crédit.
D'accord. C'est peut-être même pas les auteurs de l'attentat.
C'est ce que j'indiquais. Et encore, ce qu'on voit sur la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo-là d'une minute trente,
oui.
Il n'est pas du tout certain que ça soit les principaux acteurs de l'attentat qui a été commis.
Ce qui est étonnant sur cette vidéo, c'est qu'on n'entend nulle part une réplique russe. On n'entend pas les Russes tirer.
Ah ben non, les forces de sécurité, elles sont arrivées quand tout le monde était parti, enfin quand les terroristes étaient partis. Et sur cette vidéo, ils tirent sur des cadavres.
Oui.
Et il y a un des quatre qui donne des coups de couteau à quelqu'un qui sans doute est déjà mort, et un des quatre se promène non pas avec une Kalachnikov, mais il a un sac à dos, pardon, dans une main et un couteau dans l'autre. Alors, on est loin des frères Kouachi, on est loin du commando du Bataclan,
ça
on est loin de tous les. Ça ressemble à une mise en scène.
Ah oui.
Une minute trente. L'attaque a duré quand même un certain temps.
Oui.
Et on a une caméra piéton, 1 minute 30. Vous voyez sur les images, il y en a un des quatre qui montre du doigt à un endroit en disant « faut aller là, faut aller là ». Et vous avez un de ces quatre qui tire à la Kalachnikov sur des cadavres. Ensuite, ils continuent à marcher tranquillement. Ils ne craignent pas, manifestement, l'intervention des forces de l'ordre.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait eu une première équipe qui aurait fait le massacre, et ensuite des gens qui sont là, qu'on instrumentalise, et on met en scène...
Les quatre qui ont été arrêtés à Briansk, ça a l'air d'être des bras cassés.
Oui, c'est ça.
Les quatre qu'on voit sur la vidéo à Moscou, ça n'a pas l'air de grands professionnels non plus.
Oui, mais alors, d'où ceux qui ont fait autant de morts? Quels commandos alors?
Alors, il y a un certain nombre.
Parce que là, je vous vois cheminer.
Non, mais il y a un
certain. Je me mets à la place. Si j'étais dans ma voiture en train de vous écouter, je dirais Poirot, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait du complot en disant que c'est les Russes qui eux-mêmes ont fomenté un commando. Et puis à côté, ils ont arrêté des lampistes.
Alors, on est en Russie, donc.
Oui, je sais.
L'information, ça ne veut rien dire.
On n'est pas dans un pays démocratique. Ce qui est certain, c'est que. Cet attentat, il y a une vérité indiscutable, c'est qu'il y a eu des centaines de victimes.
Oui. 137 morts.
Des morts, près de 200 blessés, c'est indiscutable. Ce qui semble indiscutable aussi, c'est que c'est bien l'État islamique du Khorassan qui a revendiqué, qui a perpétré l'attentat, qui est à l'origine de l'attentat. Reste la question de savoir qui sont les commanditaires. Bon, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui exécute, c'est comme quand vous recrutez un tueur, celui qui tire des balles dans la tête de la victime, c'est le tueur, mais souvent il a été commandité. Il y a quand même beaucoup d'éléments troublants, et ce que je vous dis là, c'est partagé par beaucoup de spécialistes et de gens de services de renseignement étrangers occidentaux qui en discutent entre eux. Ça tombe à pic pour Vladimir Poutine, à la fois pour mobiliser la société russe, pour tenter de recruter davantage de soldats dans son armée, ça fait 2 ans quand même qu'il peine à garnir les rangs de son armée. On a l'expérience des 2 premières guerres de Tchétchénie, où ce sont des attentats, les 4 de 1999, dont on sait que c'est le FSB qui était à l'origine. Ceux de 2004, celui de 2004, l'attentat de Beslan, ça a permis, à la fin, de gagner la guerre.
Mais là, il y a quand même un grand sous-entendu dans ce que vous nous dites.
Ben, c'est pas un sous-entendu, c'est une hypothèse. Si on donne foi simplement à ce que disent les autorités russes, on va pas aller très loin. Mais je note que dans une déclaration officielle française, alors je sais plus si c'était la présidence de la République ou le Premier ministre, mais peu importe, sont les autorités françaises. La première déclaration qui a été faite, sa conclusion était une forme d'ambiguïté, disant il faudra que toute la lumière soit faite. Donc ça montre bien que la thèse ou les thèses officielles...
Macron, parce que je suis en train de revoir ce que dit précisément Emmanuel Macron, il dit il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeant et efficace. Voilà.
Jérôme Poirot, vous restez avec nous, ancien coordinateur...
Adjoint.
Du service des renseignements et de la défense. Vous restez avec nous, on continue de discuter des... hypothèses de l'attentat, bien sûr.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les chichis, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On discute, on débat, on essaie de comprendre aussi ce qui s'est passé du côté de la Russie, quels peuvent être les commanditaires. C'est Jérôme Poirot, consultant terroriste BFM TV, ancien adjoint à la Coordination nationale du renseignement, qui est avec nous. Joël Dagosséry, question, et puis ensuite on enchaîne. Joël.
Moi, j'ai une question sur les renseignements. On a vu que ils n'ont pas été pris en compte par la Russie, notamment les États-Unis qui les avaient un peu prévenus de ce qui allait arriver. L'Égypte parie avec Israël. Donc moi, je voulais savoir s'il y a des critères précis pour que les dirigeants des pays prennent en compte en fait les renseignements qui leur sont amenés.
Vous posez la grande question qui hante les services de renseignement. C'est exactement celle-là. Il y a 1000 exemples dans l'histoire où les services de renseignement ont bien fait leur métier, c'est-à-dire ils ont apporté une information de très grande valeur qui n'a pas été prise en compte. Un des exemples les plus frappants, c'est l'attaque par l'armée allemande de l'URSS le 22 juin 1941. Staline avait été prévenu, il avait des services de renseignement d'une extrême efficacité, ça venait de différents... endroits, notamment Richard Zorge, un des grands espions au service de l'Allemagne, qui était au Japon, de l'orchestre, enfin différents différents endroits. Il n'y croyait pas. Il n'a pas voulu prendre en compte. Et d'ailleurs, dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion de l'URSS par l'armée allemande, il était terrorisé. Il avait compris qu'il avait fait une erreur. Il n'y a pas de critères. C'est à la fois la grande noblesse des services de renseignement, mais c'est aussi leur grande tragédie. C'est que parfois, le décideur, c'est le responsable politique.
C'est aussi dans un flot de conneries, aussi, des fois.
Question de Didier.
Oh, dans un flot de conneries, ça peut arriver.
Non, mais quand vous êtes russe et que des Américains vous donnent un renseignement.
Alors, ben voilà. Ça, effectivement, on peut avoir des doutes parce que c'est quelqu'un avec qui bon, on coopère, mais qu'on méprise par ailleurs ou qu'on envie. Et donc, en fait, il a fait le boulot à votre place. Ça, c'est certain. Mais il y a un autre phénomène qui est très important en complément de votre question, madame, et notamment dans ces pays qui ne sont pas des pays démocratiques, c'est les services de renseignement hésitent parfois à dire la vérité.
Ah oui.
Hésitent souvent à dire la vérité. Et à l'époque du NKVD, c'est-à-dire sous Staline, le prédécesseur du KGB, le grand service de renseignement police politique soviétique, il y avait une devise, deviner, satisfaire, survivre. Donc, deviner ce que les dirigeants veulent lire ou entendre. On devine, on gratte le papier qu'ils ont envie de lire. Et c'est bien. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'invasion en Ukraine en février 2022.
Vous n'y ont pas cru,
le général du FSB qui était chargé de ça, manifestement, dans ses rapports, il a indiqué que l'accueil qui sera réservé à l'armée russe serait assez chaleureux. Ouais, mais c'est ce que Poutine
Didier,
voulait
dire. Le président Poutine sort d'une élection où il a gagné à 87%, élection à la Russie.
Bravo.
Bah, bravo, félicitations, quel beau score. Il a un attentat sur son sol, où il désigne l'Ukraine à mots couverts et découverts. Alors qu'il y a deux revendications de l'État islamique.
Trois même.
L'État islamique est obligé d'insister en disant non, c'est nous, regardez, vous n'y croyez pas, vous désignez l'Ukraine, c'est bien nous. Donc je vois mal quel serait l'intérêt d'une opération interne du FSB dans cette histoire. Quoi.
Bah, si l'attentat avait été commis quelques jours avant l'élection présidentielle, ça aurait affaibli Vladimir Poutine. Là, il se trouve que l'attentat a eu lieu une petite semaine après l'élection présidentielle. Donc son pouvoir n'est pas en cause, son pouvoir n'est pas menacé, sa réélection a eu lieu. Donc il peut instrumentaliser cet attentat, évidemment, au sein de la société russe, ce qu'il n'a pas manqué de faire, et puis pour insister à la fois au sein de la société russe et vis-à-vis de l'extérieur sur le fait que il faut évidemment éradiquer l'Ukraine, rebaptisée depuis quelques jours Néo-Nazi-Land par les Russes.
Moi, j'avais une question. L'ancien appelé que je suis, qui a gardé une route de campagne à la frontière suisse en 95 dans le plan Vigipirate, une route de campagne d'ailleurs où il passait une voiture par jour à peu près.
Ça peut être
qu'est-ce Oui, ça servait vraiment à quelque chose. De quoi nous protège Vigipirate aujourd'hui?
Ah ben, ça protège parce que on a eu beaucoup d'exemples d'attentats déjoués ces dernières années. Ou les militaires de Sentinelle, notamment, ou les forces de police ou de gendarmerie, parce qu'elles sont beaucoup plus largement déployées dans l'espace public, ont pu intervenir directement. Vous me direz, il y a eu aussi notamment un cas au centre commercial de la Défense, à Paris, où la cible, c'était un militaire de Sentinelle qui a été attaqué au couteau. Donc les forces de l'ordre peuvent être aussi la cible. Mais si, ça rassure la population. Donc ça,
voilà, est-ce que c'est pas que ça, quoi? Est-ce qu'il y a une efficacité militaire?
Non, c'est pas que ça. On l'a vu, par exemple, aussi avec, je crois, l'attentat de Bir Hakeim, sur le pont de Bir Hakeim le 2 décembre dernier. Il y a une très forte présence des forces de police, de gendarmerie et des militaires de Sentinelle. Donc, ils interviennent plus rapidement. Et dans le cas de l'attentat de Bir Hakeim, ça a permis de neutraliser le terroriste plus tôt. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait peut-être poursuivi son parcours meurtrier.
Ça n'évite pas l'attentat, mais ça freine limiter, dans sa progression.
Je pense aussi que ce qui intéressera nos auditeurs, c'est par rapport à la situation en France. On voit là qu'il s'agit d'un groupe bien particulier qui est l'État islamique au Khorassan, d'ailleurs. Il y a eu une vague d'arrestations ce week-end suite à l'attentat de Moscou dans d'autres pays, par exemple au Kirghizistan, qui est un pays qui est une ancienne république soviétique devenue indépendante. Le gouvernement kirghize a apparemment mené, ça a été filmé, beaucoup d'arrestations de militants islamistes et donc dans beaucoup de pays de la zone d'influence russe, il y a eu une vague d'arrestations, un coup de filet sur les islamistes. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, ce qu'on pouvait lire dans le Figaro ce matin, c'est un groupe aussi qui menace la France, qui menace l'Occident. Deux Afghans affiliés à ce groupe ont été arrêtés en Allemagne et de là, ils préparaient un attentat contre la Suède. Apparemment, ils peuvent frapper la France. Quel est le profil type en France du djihadiste de l'État islamique au Khorasan ? De quel pays est-il originaire ? Voilà, comment est-il surveillé ? Quel est le profil pour ce groupe ? Parce qu'on connaissait Daesh, version classique, là pour ce groupe-là, quel est le profil ?
Alors, profil type, c'est toujours un peu délicat de répondre à ça, mais enfin, si, on a beaucoup d'éléments. Notamment dans sa grande interview il y a quelques semaines, Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, a donné une description de la menace islamiste qui vise la France très inquiétante. Il a fait référence notamment aux djihadistes russophones, c'est-à-dire issus de ces anciennes républiques du sud de l'URSS, un certain nombre de pays que vous avez cités. Et on en voit la traduction concrète. On parlait de l'attentat du 2 décembre sur le pont de Bir Hakeim. C'était un Iranien, donc c'est le Khorasan, naturalisé français, et qui a revendiqué cet attentat au nom d'un certain nombre de choses, mais il s'est décrit lui-même comme étant un des membres de fait de cette organisation terroriste. Et puis les deux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard qui ont été assassinés, ils ont été assassinés effectivement par des djihadistes originaires de ces régions-là, qui sont des russophones, des islamistes. Donc il y a déjà une traduction concrète en France de ce que cette menace. Pendant longtemps, c'était une menace venant d'Afrique du Nord, d'Algérie, pour l'essentiel, également de Tunisie. On a une menace qui est...
Excusez-moi, est-ce que cette menace maghrébine, on avait vu d'abord les Algériens avec le GIA, ensuite, et puis Mohamed Merah, ensuite les Marocains du Rif. Et les Marocains du Rif, venus de Belgique, notamment Molenbeek au moment du Bataclan. Est-ce qu'il y a une décrue aujourd'hui du risque issu du Maghreb ou non, ça vient se surajouter, il reste toujours très élevé et il vient se surajouter au risque.
Ça vient se surajouter avec un risque aussi qui vient.
Le risque maghrébin n'est pas du tout en décrue.
Non, et qui vient du Sahel aussi, parce que l'armée française a quitté le Sahel. Et donc là, on est en présence d'une vaste zone de plus en plus où les djihadistes sont chez eux, parce que les gouvernements qui sont en place sont, pour certains, complices, au moins passifs, des mouvements djihadistes. On a la menace, jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas venant des groupes djihadistes de la péninsule arabique. Alors, ils ont beaucoup à faire dans la région contre des intérêts occidentaux, mais ça pourrait arriver. Mais là, ce qui manifestement est en train de prendre le dessus, c'est bien la menace russophone originaire de ces régions.
Est-ce qu'on a eu des menaces sur le sol français de groupes venant du Sahel, du Mali, où ça ne s'est encore jamais posé, sur le sol français, sur le sol métropolitain ?
Alors, il faut que je réponde en prenant en compte les déclarations publiques, parce qu'il y a ce que je sais et puis ce que je peux dire. Donc... venant du Sahel, je n'ai pas mémoire de cela, mais ça peut arriver.
D'après les déclarations publiques.
Merci Jérôme Poirot, merci d'avoir été avec nous. Ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. On se retrouve demain 9h midi, l'avocat Charles Consigny sera là, le cheminot et syndicaliste Bruno Poncet nous accompagnera. Et nous serons avec Aurélie, mère au foyer en Gironde, auditrice. Elle est dans les Landes et quand elle s'était remarquée au 32-16,
on l'a de nouveau entendue la semaine dernière au 32-16. C'est une grande gueule.
Ah, génial. Bah, écoutez, on a hâte d'être à demain.
Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Évidemment, dans Estelle Midi, on va parler du gouvernement donc qui rehausse les plans Vigipirate à son haut le plus élevé depuis après l'attentat de Moscou. Êtes-vous inquiet ? Dites-nous tout au 32-16. Vous savez qu'on a 20 milliards d'euros d'économies à trouver en 2025.
Bah oui, on en a parlé avec Bruno.
Alors, il y a une petite idée, c'est de faire payer les retraités. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée ? Par exemple, tu désindexes les pensions.
Là.
14 milliards, ça a coûté l'indexation des pensions de retraite.
C'est les seuls qui ont bénéficié des 30 glorieuses. Hein. Moi, je suis désolé. Hein.
Bon, écoutez, il faut appeler au 32-16. Et puis enfin, vous savez qu'il y a des choses gratuites au restaurant. L'eau, le pain, les cacahuètes. Mais est-ce qu'il faudrait les rendre payantes au resto pour éviter le gaspillage ? Non, mais c'est vrai, il n'y a rien de plus énervant. On vous amène des cacahuètes, vous avez décidé par exemple, de faire un petit régime, une petite diète. Mais non, mais dans ce cas, tu fais payer moins cher ton demi, par exemple. Ton demi avec cacahuète, tu le fais payer.
L'eau du robinet, tu payes l'eau du robinet.
Si tu veux pas gaspiller.
Non.
Parfois, on t'amène une carafe, t'as rien demandé. Et t'as pas du tout envie d'eau.
Bah, elle est déjà facturée, elle est déjà dans les comptes.
Bah, justement, bah, faut l'enlever des comptes. Moi, je préférais payer moins cher au restaurant et pas avoir des cacahuètes.
Tu veux payer ta carafe d'eau.
Bah,
tu
veux qu'on me l'amène.
Si vous voulez une carafe d'eau, c'est 5 euros par exemple.
Ça fait un peu cher.
C'est cher quand
Tu veux casquer et pas gaspiller.
Je ne veux pas qu'on m'amène des choses. Par exemple, le pain, si j'ai pas envie de pain, je vois pourquoi on m'amènerait du pain.
Tu le manges pas, t'es pas obligé de le manger.
Mais la tentation, et je suis désolée, on me le facture, je vois pas pourquoi on me facturerait un truc que je ne veux pas.
Venez en débat avec Estelle, au 32-16.